France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le grand face-à-face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés jusqu'à 13h, les duellistes Natacha Polony, journaliste, éditorialiste, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque samedi, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité de la semaine, et en particulier aujourd'hui sur les retraites. François Bayrou a-t-il fait une énorme gaffe, voire une faute politique, en fermant la porte à un retour à 62 ans pour l'âge de départ à la retraite? En tout cas, son conclave bat de l'aile. Et puis pour le débat, nous recevrons un de nos grands philosophes, professeur émérite à l'École normale supérieure. Il s'interroge dans son dernier livre, dont le titre est une question, « La vie a-t-elle une valeur ?» aux éditions Philosophie Magazine. À rebours d'une pensée qui met tous les vivants sur un pied d'égalité, il affirme que ce n'est pas la vie qui a une valeur absolue, c'est chaque vie humaine, pas le vivant, mais les êtres humains. Le philosophe Francis Wolff sera avec nous pour le débat, mais pour l'instant, place au duel.
Le grand face-à-face, Thomas Snegaroff sur France Inter.
Bonjour Natacha et Gilles.
Bonjour. Bonjour Thomas.
Allez, on commence avec le Proche-Orient et la trêve brisée par les bombardements israéliens. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a pris la parole en milieu de semaine.
À partir de maintenant, Israël agira contre le Hamas avec une puissance croissante. Et à partir de maintenant, les négociations ne se dérouleront que sous le feu. Ce n'est que le début.
Ce n'est que le début. Gilles, comment expliquer que la trêve signée il y a 2 mois vole aujourd'hui à ce point en éclat?
Alors, je crois que ce qui se joue dans cette semaine tragique, c'est qu'on a en réalité 2 fronts et peut-être même un troisième. Le premier front, c'est ce qui s'est passé cette semaine à Gaza avec l'intervention militaire, dont l'origine, vous avez dit, il y a eu un cessez-le-feu. La première phase de ce cessez-le-feu s'est traduite par la libération de 33 otages israéliens, de 2000 prisonniers palestiniens, par le retrait de l'armée israélienne, sauf dans le couloir de Philadelphie et la zone tampon, et c'est ça qui est important, devait se traduire par l'ouverture au 16e jour de cette première phase de négociation pour la deuxième phase. Mmh. Et c'est cette négociation-là dans laquelle, depuis le 16e jour, Benjamin Netanyahou refuse d'entrer. Il s'est passé après un deuxième élément, c'est que Steve Witkoff, qui est l'envoyé spécial Donald Trump, a proposé un plan intermédiaire entre cette première et cette deuxième phase que, cette fois-ci, le Hamas a refusé. Et donc, on était dans une espèce de zone grise dans laquelle il y avait un cessez-le-feu sans échange de prisonniers. Et ce qui me frappe dans l'objectif qui est poursuivi dans ce front extérieur, c'est que ce n'est plus vraiment un objectif militaire. Et d'ailleurs, on voit que l'affaiblissement du Hamas est suffisamment important pour qu'aucune roquette n'ait même été tirée depuis le début de la semaine. C'est désormais un objectif clairement politique, c'est de provoquer la chute de l'administration du Hamas, et ce n'est pas un hasard si a été ciblé celui qui faisait office de premier ministre de fait. Le problème, c'est que les dégâts civils sont aujourd'hui sans aucune commune mesure avec les objectifs qui sont poursuivis. Et il y a le deuxième front qui permet de comprendre le premier front. Et le deuxième front est un front intérieur. Ce sont les attaques contre l'état de droit en Israël. Parce qu'on a beaucoup dit cette semaine que l'action de Benjamin Netanyahou avait pour objet de rassembler la droite radicale pour pouvoir voter le budget à la fin du mois. C'est vrai, mais il y a quelque chose derrière ça qui est sans doute beaucoup plus important, c'est d'accélérer les attaques contre l'état de droit. C'est le limogeage du directeur du Shin Bet, qui est un événement sans précédent en Israël. Et il faut comprendre que en Israël, le Shin Bet, c'est pas seulement les services de sécurité intérieure, c'est comme en Allemagne, l'institution qui doit protéger le cadre démocratique de l'État. Plus derrière le limogeage de la procureure générale de l'État, qui est une institution que nous n'avons pas chez nous, qui doit veiller à l'application par l'exécutif de la Constitution. Et enfin, par la remise sur la table de la réforme de la Cour suprême. Et donc, tout ça forme une offensive interne d'ampleur. La seule bonne nouvelle, c'est une mobilisation inédite de la société civile israélienne. 50 000 manifestants cette semaine dans un petit pays, c'est beaucoup. Et pas seulement pour demander la libération des otages, mais pour demander l'arrêt de la guerre.
Natacha, front intérieur, front extérieur, et un homme qui joue sa survie politique, Benjamin Netanyahou. Depuis le début, on explique que c'est l'une des explications de ce qui est en train de se passer.
On sait que c'est l'une des clés, en effet, et que ce qui explique la façon, enfin le visage qu'a pris la réaction au 7 octobre, c'est cela. Là, on en a véritablement la preuve flagrante, et je ne vais pas reprendre tout ce qu'a dit Gilles, et qui montre à quel point on est là dans une forme de manipulation. Je veux dire, le fait que Ben-Gvir se dise prêt à revenir au gouvernement montre que toute une frange, évidemment, de la classe politique israélienne ne voulait pas de ce cessez-le-feu et a tout fait pour le torpiller, et que Benjamin Netanyahou sait pertinemment que si il tombe politiquement, il ne sera pas réélu. Si sa coalition craque, il ne sera pas réélu, et là commenceront les véritables ennuis. J'ajouterai un dernier élément. Le Wall Street Journal a sorti au mois de février un rapport du renseignement américain qui date en fait des premiers jours de l'administration Trump et qui explique qu'Israël envisagerait de frapper l'Iran dans l'année 2025. Donc c'est le troisième front, oui. Puisque Gilles a cité les deux premiers. C'est en effet le risque majeur dans la mesure où tout semble démontrer que c'est le moment favorable pour Israël pour frapper l'Iran. D'abord parce que l'Iran est affaibli, les frappes d'Israël jusqu'à présent ont permis de fragiliser un Iran qui n'a plus de défense aérienne. Ensuite parce que justement le durcissement de la politique des sanctions fait courir le risque que toute l'intelligentsia iranienne conclue que seule la bombe peut protéger le territoire et le régime. Auquel cas, on serait dans une accélération des risques.
L'Iran, d'ailleurs, au cœur des discussions entre Poutine et Trump. On est là sur un jeu complexe qui dépasse et de loin la question purement ukrainienne, en tout cas entre Poutine et Trump. Ils ont parlé de l'Iran et ça a été d'ailleurs souligné après.
Ils ont parlé de l'Iran. Donald Trump a écrit au guide suprême pour lui proposer une négociation, maniant, comme il le fait souvent, la carotte et le bâton, donc proposant un accord mais menaçant de sanctions. Et dans cette fuite en avant israélienne, la question est-ce qu'ils ne vont pas considérer qu'il y a une fenêtre d'opportunité? C'est ce qu'a dit Natacha, c'est-à-dire c'est l'affaiblissement de l'Iran lié à l'affaiblissement, et même plus que l'affaiblissement de ses défenses aériennes, mais aussi d'une situation économique très dégradée, mais aussi du fait que ses proxys en Syrie, avec le régime de Bachar, au Liban, avec le Hezbollah, soit sont partis, soit sont affaiblis.
Et les Houthis sont frappés par les États-Unis désormais directement.
Absolument. Et donc, est-ce qu'il y a une convergence d'intérêts entre les États-Unis, entre Israël, peut-être entre l'Arabie Saoudite, pour saisir cette fenêtre d'opportunité, au-delà de ce qui s'est passé de tragique à Gaza cette semaine? Je crois que c'est la question pour les prochaines semaines.
Le grand face-à-face, le duel.
Allez, on revient en France où le conclave sur les retraites est pour le moins fragilisé. Théoriquement, on ne sort d'un conclave qu'avec un résultat. Là, la CGT en est sortie très prématurément.
La CGT a décidé ce soir de quitter ses concertations et d'appeler les salariés à se mobiliser. Le Premier ministre et le patronat ont malheureusement définitivement enterré ce conclave. Et c'est très grave parce que le Premier ministre s'était engagé à ce que ces discussions soient sans totem ni tabou. Et il nous a dit ce week-end qu'il y avait un tabou, les 62 ans. Or, les 62 ans, c'est la question centrale. En disant cela, non seulement le Premier ministre trahit sa parole, mais il trahit des millions de salariés qui se sont mobilisés pour l'abrogation de la réforme des retraites pendant 6 mois.
La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, qui a annoncé donc au journal de 20h de France 2 mercredi que son syndicat allait quitter la table des négociations après le refus de François Bayrou de revenir à un âge de départ à 62 ans. C'était dimanche dernier sur France Inter. Natacha, est-ce qu'il a commis une gaffe, François Bayrou, en fermant la porte à ce point aux 62 ans? Est-ce que c'est une faute politique stratégique ou bien une forme de sincérité qui n'est pas si fréquente en politique?
Je pense que François Bayrou a dit tout haut ce que beaucoup dans la classe politique pensent tout bas en ce moment. Et qu'il l'a dit de façon profondément maladroite, bien sûr, puisque le premier réflexe eût été normalement de dire « je n'ai pas à répondre à cette question dans la mesure où les partenaires sociaux que j'ai installés vont trancher cette question-là ». Il l'a dit. Cela dit, nous avons là un jeu de dupes entre tous les acteurs, puisque, bien sûr, Sophie Binet se saisit de cela en expliquant que François Bayrou a fermé la porte, ce qui n'est factuellement pas vrai, puisque le conclave continuait et les discussions devaient se prolonger et que, in fine, ce n'est pas parce que François Bayrou dit qu'il pense qu'on ne doit pas revenir sur l'âge de départ, ce n'est pas parce qu'il le dit que ça va effectivement se passer.
D'autant qu'on le savait depuis longtemps.
Hein. Mais évidemment. Ouais. Deuxièmement, on voit que la CFDT a assumé de rester, mais de rester avec l'idée de changer de conclave, c'est-à-dire de créer ce que Marie-Lise Léon a appelé le village retraite, c'est-à-dire, oui, le nom est assez sympathique. Oui. Voilà, je la cite, je m'affranchis de la lettre de cadrage qui a été posée. Et en fait, on s'aperçoit que les discussions vont continuer avec la Confédération des PME, avec le MEDEF, qui veut une réflexion plus large sur le financement de la protection sociale. Donc en fait, ça va peut-être être l'occasion de prolonger cette discussion, de l'élargir et de, on va dire, de véritablement œuvrer à ce que les partenaires sociaux puissent reprendre la main, ce qui ne serait pas tout à fait négatif. Dernier point dans cette affaire, on voit que les difficultés s'accumulent sur François Bayrou, puisque dans le même temps, alors il y a ce qui ressemble fort à une maladresse, il y a aussi les fragilisations par l'émergence des différents appétits à droite, Retailleau, Darmanin, nous allons parler d'Édouard Philippe. Pour autant, je ne suis pas certaine que François Bayrou soit dans une position tragique, dans la mesure où il continue à faire ce qu'il a fait depuis le début, c'est-à-dire être maladroit, dire des choses qu'il ne devrait pas dire, mais finalement s'en tirer. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un moment où, pour l'instant, personne n'a intérêt à ce que François Bayrou tombe. Alors, le Rassemblement national, évidemment, attend l'issue du procès de Marine Le Pen, qui va arriver très vite, et là, nous verrons ce que ça implique. Mais pour les autres, c'est-à-dire les socialistes, qui évidemment protestent, hurlent à la trahison, ne sont absolument pas en position de faire quoi que ce soit. Et ils n'y ont aucun intérêt, dans la mesure où il n'y aurait rien de pire qu'une dissolution dès le mois de juillet, dès que ce sera possible, puisque soit ils vont avec la... ils reforment la NUPES et ils le payent, soit ils y vont tout seuls et ils le payent.
Gilles, est-ce que François Bayrou est fragile au point de tomber, ou bien fragile, mais il ne tombera pas, pour reprendre Natacha, parce que personne n'a intérêt à ce qu'il tombe ?
Ah, vous me posez les questions auxquelles je ne sais pas répondre.
Donnez-nous des éléments.
Je pars des retraites pour arriver à François Bayrou, pour suivre le cheminement de Natacha. Est-ce que c'est une gaffe ? Vous avez posé la question. Je crois que c'est pas nécessairement une erreur de le penser. D'ailleurs, c'est ce qu'il pensait depuis longtemps. Et après le rapport de la Cour des comptes et l'évolution de la situation internationale, on peut penser ça. C'est une faute de le dire. C'est une faute de le dire parce que c'est incohérent par rapport à ce qu'il a dit lui-même et à la lettre de cadrage qu'il a envoyée, qui avait fixé un objectif qui était l'équilibre du système de retraite, mais pas de précision sur les modalités. C'est maladroit par rapport à la dynamique du conclave, dont on voyait qu'elle avait du mal à s'engager. Et surtout, c'est inutile par rapport au résultat final, parce que chacun voyait bien que si compromis il devait y avoir, ça ne serait sans doute pas sur les 62 ans. Donc le seul résultat a été de donner un prétexte à Sophie Binet et à la CGT pour quitter le conclave. Alors, changer de conclave, un nouveau conclave qui n'est plus un conclave, disait Natacha. Il y a la question de l'extension du champ, et puis il y a une question très importante qui est en lien avec la question que vous posez sur la survie de François Bayrou, qui est celle du calendrier, parce que depuis le début, on sent quand même que le calendrier de négociation était un calendrier trop serré. Peut-être que les partenaires sociaux vont se saisir de ce moment pour s'en affranchir. D'où, deuxième question, François Bayrou. Il vit à l'évidence une période difficile et il est, d'une certaine manière, la forteresse est assaillie à chacun des points cardinaux. Par le haut, c'est le président de la République qui était un président réduit au silence et dont la situation internationale fait que on attend maintenant sa parole et qui a repris de l'espace. Par le bas, avec l'opinion, où on a non seulement un Premier ministre impopulaire, mais pour la première fois cette semaine, sondage Elab, la moitié des Français qui souhaitent la censure du gouvernement. Par l'extérieur, Édouard Philippe, on va y revenir, qui l'attaque. Et par l'intérieur, c'est ce qu'évoquait Natacha, ses ministres et une certaine cacophonie ministérielle. J'ajoute, pour François Bayrou, il ne faut pas ajouter un cinquième front qui est affaibli par lui-même. Et c'est ce qu'il fait quand même beaucoup, c'était la submersion, c'était les attaques contre Édouard Philippe, les attaques contre le Parti Socialiste, maintenant le conclave. Ça c'était pour François Bayrou, pour le pays. On peut se résoudre à ce qu'il ne se passe rien pendant 2 ans, dire que en réalité c'est la rencontre d'un homme et d'une situation, un homme qui ne veut rien faire, une situation dans laquelle on ne peut rien faire. Très bien. Mais on peut aussi se dire, eh bien très bien, tout va changer, il va y avoir le gouvernement va être renversé, de nouvelles élections. Entre les deux, je pense qu'on peut quand même espérer qu'il se passe des choses avec un gouvernement qui ne peut sans doute pas beaucoup légiférer, mais qui peut encore gouverner. Et si on se saisissait de ces 2 années pour gouverner, et notamment pour s'attaquer à cette question de l'efficacité de l'action publique, ça ne serait pas complètement 2 années de perdu.
Le grand face-à-face, le duel.
Il a jugé, lui, le conclave hors sol. Il est désormais omniprésent dans les médias. Il, c'est le maire du Havre et ancien Premier ministre Édouard Philippe, lancé à fond vers la présidentielle de 2027 ou d'avant. En tout cas, c'est lui qui l'avait évoqué. Un Édouard Philippe très sévère.
En vérité, ce que je reproche à notre époque, à notre système politique tel qu'il est aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir engager de réformes audacieuses. Nous avons, et c'est le produit de la dissolution, une Assemblée nationale qui est dépourvue de majorité. Nous avons un bloc central qui soutient le gouvernement, qui est dépourvu de contrat de coalition. Et donc, nous sommes dans une situation, objectivement, où rien de grand, et à mon avis rien de très ambitieux, ne peut être fait. Ça ne veut pas dire que rien ne sera fait. La dissolution était une décision funeste, et l'équilibre politique qui est sorti des urnes est un équilibre qui contraint chacun, au fond, à ne pas faire grand-chose.
Édouard Philippe mardi sur Europe 1. 2 jours plus tôt, il était à Lille pour le congrès de son parti Horizon, où il n'a pas retenu ses critiques, ses frappes même envers François Bayrou et Emmanuel Macron. Gilles, est-ce qu'il y a un espace politique pour Édouard Philippe qui ne semble songer qu'à 2027? Question subsidiaire, est-ce que le philippisme, ça existe?
Écoutez, est-ce qu'il y a un espace? Oui, Édouard Philippe aujourd'hui est la personnalité politique la plus populaire de ce pays. Et donc, je pense que c'est intéressant d'écouter ce qu'il dit quand il parle, puisqu'il ne parle pas beaucoup. Et il a fait un vrai discours de ce congrès à Lille qui a eu, je crois, trop peu d'écho. On comprend pourquoi, la situation internationale. C'est un discours d'affirmation. Affirmation d'abord d'une candidature. Il dit, il a prononcé la formule sacramentelle « Je suis candidat à la présidence de la République ». Ça m'a été même peu relevé. Affirmation d'une identité. On a vu les critiques sur François Bayrou. Aussi des critiques sur Emmanuel Macron. Il n'est ni François Bayrou, ni Emmanuel Macron qui fait de grandes phrases et de petites réformes. Affirmation d'un périmètre politique, c'est pas la Macronie, mais c'est la Macronie jusqu'aux Républicains, espace dans lequel il espère avoir un rôle central, et affirmation d'un calendrier, les municipales, je serai candidat au Havre, et au lendemain des municipales, je présente mon projet. Bon, donc c'est un discours d'affirmation. Il y a une analyse qu'on peut discuter sur l'état et les priorités de la société française dans laquelle il dit le premier sujet, le grand sujet, c'est la légitimité de l'État. On peut en débattre. Et puis, et c'est là-dessus que je voudrais insister, il y a une méthode et des propositions. Et ce sont notamment ces propositions. Il dit, après l'élection présidentielle, il faudra dissoudre l'Assemblée nationale. Sans doute. Et il faudra organiser 3 référendums pendant les élections au premier et au deuxième tour des élections législatives, en partant d'un diagnostic que je crois juste, qui est que l'élection présidentielle dans une situation de tripolarisation que nous connaissons ne donne plus un mandat au président qui est élu. Vous vous souvenez qu'on a eu ce débat-là après l'élection présidentielle de 2022 pour savoir si Emmanuel Macron avait un mandat pour réformer les retraites. Et donc il dit ce mandat, ça va être des référendums. Et ce qu'il propose mérite un débat, je n'en prends qu'un seul exemple. Parmi les trois référendums, il dit il faudra un référendum pour inscrire dans la Constitution une règle d'or budgétaire. Au moins deux débats. Un débat sur le fond. Est-ce qu'une règle d'or budgétaire, c'est-à-dire l'interdiction de faire des déficits, au moment où l'Allemagne essaye d'en sortir, est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est un débat qui doit être une contrainte, qui doit être une contrainte constitutionnelle, ou est-ce que ça doit être laissé au débat politique ? Est-ce que ça n'enlève pas de la souplesse, une souplesse nécessaire dans des contextes de crise ? Et, deuxième question, est-ce que cette réforme-là doit être faite, qui est une révision de la Constitution, est-ce qu'elle doit être faite par référendum, par le référendum de l'article 11 dans le calendrier que nous avons, c'est-à-dire sans la procédure normale de révision de la Constitution, qui est exactement ce qui est reproché à Marine Le Pen dans le référendum qu'elle veut faire sur l'immigration et qu'on considère comme une attaque contre l'État de droit. Donc, c'est un discours qui vraiment est un discours intéressant, qui place le débat au bon niveau, et donc qui mérite d'être poursuivi avec une critique. Je trouve, en lisant le discours, que Édouard Philippe parle beaucoup de lui et trop peu des Français.
Natacha, parlons d'Édouard Philippe.
J'apprécie énormément la dernière phrase de Gilles, parce que c'est exactement celle que j'allais prononcer. Gilles a dit tout à l'heure, Édouard Philippe ne parle pas beaucoup. Depuis quelques semaines, il ne fait que ça. Mais que ça, partout. Et pour nous expliquer quoi ? Voilà, pour nous expliquer qu'il est candidat. Et que, visiblement, c'est la seule chose qui l'intéresse. Et que chacune de ses prises de parole donne cette impression d'être là pour installer cette candidature. Et c'est très particulier. Il est en train, par exemple, de cultiver la stratégie du parler cash. Il y a cette idée qui s'est installée que les Français auraient besoin d'autorité. Et donc, pour montrer qu'on est un homme d'État, on multiplie les formules un peu brutales qui ont l'air disruptives. Donc, par exemple, les Européens seraient des gros chats castrés. Ou le conclave est hors sol. Est-ce que réellement, ce genre de phrases et de bons mots porte une vision ? C'est la question que je me suis posée en lisant le texte de ce discours. Parce que Gilles a raison, il y a des questions qui sont importantes, qui doivent être posées. Mais en effet, ce qui en ressort, me semble-t-il, c'est une vision politique que je vois depuis 30 ans. On reproche beaucoup à Édouard Philippe, ou plutôt on alerte énormément Édouard Philippe sur le risque de se juppéiser. Il n'est en effet absolument pas sorti de la vision que portait Alain Juppé en 1995. C'est-à-dire une vision relativement technocratique qui considère que l'unique problème de la France est de n'être pas l'Allemagne, mais l'Allemagne d'il y a 30 ans, pas celle d'aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs assez amusant puisque la polémique s'agite autour d'Édouard Philippe est exactement sur le même thème que celle qu'a subie Alain Juppé, pour des raisons très certainement injustes, mais cette question, cette fameuse question du voile dans le sport. C'est-à-dire que Édouard Philippe tente de porter une vision d'homme d'État, et sur un sujet qui paraît totalement annexe, en revanche, on lui reproche une forme de complaisance, lui qui veut apparaître comme autoritaire. Sachant qu'on n'a pas le temps ici de développer cette question-là, elle serait très intéressante. Je regrette simplement qu'Édouard Philippe ne développe pas une vision de la laïcité qui soit un petit peu plus profonde que cette espèce de tarte à la crème. La laïcité, c'est la liberté et la neutralité de l'État. C'est un petit peu plus compliqué que ça.
Gilles ?
Oui, juste un mot pour réagir à ce que dit Natacha. Oui, c'est un discours c'est souvent juste, mais c'est rarement original. C'est ce risque-là de reproduire la campagne d'Alain Juppé, la pré-campagne d'Alain Juppé de 2015, devant laquelle se trouve Édouard Philippe. Deuxièmement, quand Natacha dit qu'il veut installer une candidature, c'est un élément très important. Je pense dans le récit d'une campagne, d'une candidature à l'élection présidentielle, donner aux Français le sentiment que l'on se prépare et que l'on arrive à l'élection préparée. Et aujourd'hui, il est le seul à faire ça dans son espace politique, et je crois que c'est un avantage pour lui. Enfin, sur le style, il y a un petit côté churchillien, à la fois la promesse du sang, du labeur, de la sueur et des larmes, et une touche d'humour à la britannique. C'est aussi la marque, ça, pour finir sur quelque chose de positif, mais je sens que Natacha ne va pas rester sur cette note-là.
Non, de ce discours. Il vous plaît bien, Edouard Philippe, hein?
Écoutez, quand je dis, je parle plutôt qu'il parle trop de lui et pas assez des Français, et j'étais critique sur les propositions, mais j'essaie de regarder
l'ensemble d'un projet. Voilà. Natacha.
Alors, là aussi, la comparaison avec Churchill doit être maniée avec beaucoup de pincettes, dans la mesure où Churchill n'était pas exactement l'incarnation de la technocratie française. Le sang et les larmes, quand il s'agit de résister à Hitler et à une guerre mondiale, c'est pas exactement la même chose que quand il s'agit tout simplement d'expliquer qu'on va faire de la rigueur budgétaire parce qu'il faut faire de la rigueur budgétaire parce que la dette, c'est mal. Or, c'est exactement ça. Cette affaire de règle d'or a quelque chose d'effarant dans la mesure où c'est une absence de distinction entre une dette d'investissement et une dette tout à fait néfaste qui est celle qui consiste à lâcher la bride des dépenses de l'État. Or, là, on est dans un débat qui, à mon avis, est essentiel et qui montre qu'Édouard Philippe a aucun moment n'analyse les raisons pour lesquelles il y a un dérapage budgétaire. C'est en ça que je dis que sa vision date d'il y a 30 ans. On dirait que la désindustrialisation, l'affaiblissement de l'État sont des éléments qu'il n'a toujours pas expliqués, pris en compte. Et la conclusion est qu'il rate finalement les Français. Pourquoi ? Parce que les Français subissent cela. C'est le cœur de la souffrance de beaucoup de Français, les conséquences de cette désindustrialisation. Donc il me semble que ça devrait être quand même un sujet de réflexion.
Allez, pour notre invité, l'avis de Churchill et l'avis d'Edouard Philippe sont certes différentes, mais elles ont la même valeur. Place au débat du grand face-à-face.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
Bonjour Francis Wolff.
Bonjour Thomas.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes philosophe, professeur émérite de philosophie à l'École normale supérieure. On vous reçoit toujours avec beaucoup de plaisir et de gourmandise au grand face-à-face, même si pour moi c'est la première fois que je vous reçois ici. Livre après livre, vous dessinez une œuvre philosophique dans laquelle vous mettez en évidence les valeurs et les normes propres à notre humanité. Vous vous opposez au relativisme de notre modernité et dans votre dernier livre, qui vient de sortir aux éditions Philosophie Magazine, vous vous posez cette question, qui en est le titre, la vie a-t-elle une valeur? Et pour commencer l'entretien, je vous propose une chanson.
Je les entends rire comme je râle, je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Est-ce que ce monde est sérieux?
J'ai senti un torrent de perplexité dans votre regard. Ce taureau qui parle à la première personne. Je les entends rire comme je râle, je les vois danser comme je succombe. Je ne pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Ça, c'est un taureau qui parle à la première personne et qui ne trouve pas sérieux que des hommes célèbrent sa mort. Vous adorez la corrida, vous aimez peut-être Francis Cabrel, mais est-ce qu'on n'est pas là dans tout ce que vous dénoncez dans votre livre, Francis Wolff, la vie d'un taureau compte autant que la vie d'un homme, voire plus?
Alors, je ne pense pas que la vie d'un taureau vaut autant que la vie d'un homme, mais je ne pense pas non plus qu'on a tous les droits de traiter les animaux, certains animaux, d'une façon horrible, et par conséquent, je me bats et je me suis toujours battu contre les formes d'élevage industriel qui ramènent les animaux à des choses, qui en font des usines à viande ou à produire des déchets. Je pense que les relations que nous devons avoir avec les autres êtres vivants dépendent du type de relations que nous avons nouées avec ces êtres. Et nous ne pouvons pas avoir les mêmes relations. Par exemple, si vous voulez, j'aime bien les huîtres, mais je ne vais pas les traiter exactement comme je traite les chiens et les chats. Et d'ailleurs, supposez que mon chien ait des puces, je ne vais pas traiter les puces exactement de la même façon que je traite mon chien. Par conséquent, il est toujours glorieux, il est toujours gratifiant de ne pas faire de hiérarchie. On a l'air d'être au-dessus de la mêlée, donc tous les vivants se valent. Eh bien non, tous les vivants ne se valent pas. Même si tous les êtres humains que nous sommes se valent d'une certaine manière, et c'est peut-être de celle-ci que nous allons discuter.
Absolument, on va creuser cette idée-là, mais pourquoi est-ce que c'est dangereux de considérer que tous les vivants se valent ? Parce que on a reçu un Charles Stepanov ici sur la notion d'attachement entre l'homme et l'animal. C'est des choses qui courent en anthropologie, par exemple. Pourquoi le philosophe que vous êtes considère que c'est dangereux ? Est-ce que d'ailleurs c'est le bon adjectif, dangereux ?
Alors c'est pas simplement dangereux, c'est impossible. C'est pas simplement dangereux, c'est impossible, parce que si tous les êtres vivants se traitaient comme appartenant à une grande communauté morale, eh bien il n'y aurait plus de vivants. Pour la simple raison que le vivant se nourrit du vivant. Par conséquent, vous pouvez avoir ce qu'on peut appeler une communauté biotique, c'est-à-dire dans laquelle nous sommes tous interdépendants et dans laquelle, par exemple, nous avons tous besoin, tous les vivants ont besoin des producteurs primaires que sont les plantes, grâce à la photosynthèse, produit de la biomasse. Et toute la biomasse vient de là, et par conséquent, sans les plantes, il n'y aurait pas de producteurs, qui sont les producteurs primaires, il n'y aurait pas de consommateurs primaires, les herbivores, pas de carnivores, pas d'êtres humains. Donc il y a bien une solidarité, mais cette solidarité n'en fait pas une communauté morale, parce que, évidemment, si vous traitez également la salade, le lapin et le renard, eh bien, il n'y a plus ni salade, ni renard, ni lapin, parce que c'est ça la vie. Et tout ça n'est pas une morale. La vie n'est pas une morale, et heureusement, parce que sinon, il n'y aurait plus de vie.
Et tout le monde crève de faim à la fin, si tout est égalité.
Exactement.
Mais est-ce que en haut de tout ça, il y a l'être humain ?
Alors,
et si oui, pourquoi ?
Tout dépend de ce que vous appelez en haut. A priori, je veux dire, il n'y a pas de raison de privilégier une espèce plutôt qu'une autre. Mais il est clair que ce qui compte aujourd'hui, c'est de savoir qu'il y a une seule espèce qui est écologue, c'est-à-dire qui peut avoir une vision générale de ce que c'est que le vivant, qui peut éventuellement définir des priorités du point de vue des écosystèmes. C'est à la fois le super prédateur de la nature, l'être humain, et son seul gardien possible.
Gilles.
On a commencé en entendant Francis Cabrel. Le premier livre que j'ai lu de Francis Wolff était sa philosophie de la corrida. Et ce qui est passionnant avec lui, c'est qu'il rentre par des objets, la corrida, l'amour, la musique, cette fois-ci la vie, en posant des questions très simples. Qu'est-ce que et pourquoi ? Et en lisant « La vie a-t-elle une valeur ?», je me suis fait une réflexion qui va vous paraître étrange. C'est une analogie avec un roman policier. C'est-à-dire, ça ne se lit pas comme un roman policier, parce que c'est clair, mais c'est dense, mais c'est construit comme un roman policier. Il y a une énigme dont vous cherchez non pas le coupable, mais la solution. Et vous nous dites « La solution, c'est ça. » Et voilà les arguments. Et on se dit « Ah ben oui !» Et vous nous dites « Ah ben non !» Ah ben non, parce que il y a tel argument.
Alors, c'est coupable.
Les faux coupables, oui.
C'est le faux coupable. Et puis il y en a un deuxième. On se dit, ah mais cette fois-ci, je suis convaincu. Ah oui, mais vous n'avez pas bien compris. Il y a une erreur dans le raisonnement. Il y a un sophisme. Et puis un troisième et un quatrième. Et on arrive à la page 180. On a la réponse. En tout cas, on a votre réponse. On est étourdi et on a l'impression, ce qui est toujours bien, d'être intelligent. La question que je voudrais vous poser, donc sur cette formule « nous, les vivants » qui s'impose dans le débat public, que vous contestez, on a parlé de la différence entre les hommes et les animaux à l'instant. L'autre point sur lequel je voudrais vous faire réagir, c'est l'homme et la biodiversité. On est face à vous le dites, la sixième extinction massive, une catastrophe, et vous écrivez « une éthique qui ferait de la biodiversité son principe et sa fin seraient extravagantes. Donc la biodiversité n'a pas une valeur en tant que telle. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Francis Wolff.
Alors ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'abord que la biodiversité, ou peut-être devrait-on dire ce que les scientifiques conseillent, la diversité biologique, qui n'est pas tout à fait la même chose, mais enfin disons, la diversité biologique, le fait qu'il y ait non seulement il y ait le plus possible d'espèces, mais surtout qu'il y ait la plus grande distance phylogénétique entre les espèces. c'est-à-dire richesse et pas simplement variété. Elle est essentielle à l'humanité, elle est essentielle à l'avenir de l'humanité, pour diverses raisons. Les forêts stockent le CO2, qui est indispensable à l'air que nous respirons. Les zones humides stockent l'eau. Les insectes pollinisateurs sont essentiels, et les abeilles, aux plantes cultivées, aux arbres fruitiers. Les micro-organismes, les vers de terre en particulier, sont essentiels au renouvellement des sols. Bref, la biodiversité a une valeur pour l'humanité. La question, ou la diversité biologique, est-ce que ça a une valeur, comme disent les spécialistes, intrinsèque? Eh bien, si vous répondez qu'elle a une valeur intrinsèque, cela signifie qu'il faut privilégier la diversité biologique sans vous occuper de quelles espèces sont privilégiées. Vous calculez, il faut éliminer 90% de l'espèce humaine. Si vous dites que la diversité biologique en tant que telle, et pas ça, et pas pour l'humanité, a une valeur, alors il faut éliminer le seul super prédateur qui est la cause, non seulement par l'artificialisation des sols, mais simplement parce que il est en haut de la pyramide de la prédation, eh bien, les résultats sont clairs, 90% de l'espèce humaine. Est-ce que vous êtes prêt à le déclarer? Moi, pas. Alors, c'est ce que certains ont appelé de l'écofascisme, mais, en tout cas, il est clair que ça nous pose des problèmes politiques considérables parce que ça pose un problème démographique. Il est clair que le progrès, ou la progression plutôt démographique, est un péril pour l'ensemble de l'humanité parce que c'est un péril pour la conservation de la diversité biologique. Mais distinguons bien valeur intrinsèque, c'est-à-dire sans l'homme, la planète se porterait bien mieux. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Ou est-ce que nous voulons une planète qui soit plus humaine, mieux humaine, pour nos enfants et nos petits-enfants?
Natacha.
Alors, je me joins à Gilles pour souligner le caractère absolument jubilatoire de ce livre, parce que c'est en permanence un travail dialectique qui permet de cheminer petit à petit, de vous suivre. Bref, je pense que ça devrait être lu, notamment d'ailleurs par tous les lycéens et étudiants en philosophie. J'en ai en stock. J'en viens au début du livre. Le livre s'ouvre sur le livre de Maëlys de Kerangal, « Réparer les vivants ». Et sur cette scène terrible de parents dont l'enfant est en mort cérébrale. Et c'est à partir de là que vous vous posez la question de la vie humaine, ce que c'est que cette vie qu'il faut protéger. La vie vécue, dites-vous, la vie de personnes humaines. Cette question-là, il me semble, court depuis l'Antiquité. Qu'est-ce que c'est qu'une vie? D'abord, tout simplement, une vie humaine et une vie bonne. À ceci près que, dans cet arbitrage, vers quel progrès devons-nous aller pour permettre à un maximum d'êtres humains de vivre bien? La question, c'est où est-ce qu'on s'arrête? Qu'est-ce qui fait que nous allons pouvoir progresser vers une vie bonne pour tous? L'époque actuelle, le consumérisme actuel répond « on va augmenter le bien-être et ça suffira ». Mais du coup, ça justifie qu'on détruise la nature. Quel est cet arbitrage? Comment l'établit-on?
Francis Wolff.
Alors, il y a beaucoup de questions dans celle que vous venez de poser. Pourquoi je suis parti de Maëlys de Kerangal et pourquoi je suis parti de la transplantation cardiaque? Jusqu'en 1968, la mort était définie par l'arrêt cardiaque. Si on définit la mort humaine par l'arrêt cardiaque, alors il n'y a pas de transplantation possible du cœur. Et c'est précisément suite au changement de définition légale de la mort, comme arrêt de l'activité cérébrale, qu'il est possible, je puis dire, d'avoir fait ce progrès technique permettant une transplantation du cœur. Mais c'est aussi ce qui fait la détresse des parents qui voient leur enfant, dont ils croient qu'il est vivant, alors que, comme je le dis, il n'y a plus personne. Alors, à partir de là, évidemment, je construis quelque chose autour de qu'est-ce que c'est que la vie si ça n'est pas le maintien du fonctionnement ordinaire d'un certain nombre d'organes comme dans une machine. C'est là où, en effet, quelque chose comme la vie humaine et sa valeur deviennent centrales. Et là, vous me posez une question à laquelle, revêtant mes habits de Madame Irma, je suis totalement incapable de répondre. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut considérer que les périls écologiques que nous affrontons, d'autant plus depuis l'élection de Trump, ont une conséquence aggravante pour toutes les autres injustices. Autrement dit, on ne doit pas considérer la crise écologique à part. Et puis d'un autre côté, il y a les problèmes sociaux, il y a les problèmes de relations internationales. Car la crise écologique, les crises écologiques aggravent toutes les injustices déjà présentes. Et par conséquent, si je dis qu'une des façons bien de... Vous avez évoqué implicitement la question croissance-décroissance. Je ne me lancerai pas dans le débat technique entre, qui divise les économistes, mais je dis que si on ne raisonne plus en termes croissance-décroissance, mais en termes d'indice de développement humain, et si on raisonne en indice de développement humain en pensant d'abord à ceux qui en sont le plus éloignés, c'est-à-dire, par exemple, à toutes ces régions d'Afrique qui n'ont pas l'accès à l'eau courante, au sanitaire, etc., à ces 500 000 femmes ou enfants qui meurent chaque année parce à cause de la cuisson traditionnelle et du fait que la cuisson à bois implique des maladies graves et en plus accroisse, c'est pas, la déforestation. Si on prend le problème par où il est le plus injuste, si on réfléchit au fait que monter l'indice de développement humain dans ces pays permet à moyen terme de résoudre la transition démographique, eh bien, nous sommes déjà dans une voie de solution plutôt que de crier « vive le vivant ». Ce n'est pas « vive le vivant » qu'on devrait crier, c'est « pensez à vos enfants ».
Gilles,
je voudrais... En fait, c'est un livre de philosophie, mais qui a des implications politiques très importantes. Et ce sont sur ces implications politiques que je voudrais maintenant vous interroger. Page 117, vous dites « Les luttes contre le changement climatique sont un chapitre du combat plus général contre les inégalités planétaires, régionales, sociales ou sexuelles. Elles lui sont subordonnées. » Est-ce que il y a dans cette remarque-là ce qui permet de faire la ligne de partage entre l'écologie politique et la social-démocratie. On place, l'écologie place la question de la lutte contre le changement climatique, de la biodiversité en haut et subordonne le reste à ça. La social-démocratie doit l'intégrer dans un combat plus général contre les inégalités.
Francis Vol sur la dimension politique de votre livre.
Alors, tout dépend de ce qu'on entend politique. C'est évidemment un livre qui a des conséquences politiques et dans... conclusion, j'essaie même de faire une analyse des raisons pour lesquelles on en est là. Disons que les espèces vivantes, la biodiversité, elles s'en fichent. Je veux dire, les espèces vivantes, c'est pas leur problème. Avec la crise climatique, des espèces vont disparaître. Est-ce un drame pour elles ? Ben non, elles n'existeront plus. Avec la crise climatique, d'autres espèces vont proliférer. Est-ce un drame pour elles ? Ben non, justement, puisqu'elles existent grâce à la crise climatique. La seule espèce pour qui c'est dramatique, c'est l'espèce humaine, parce que nous vivons dans le temps. Nous vivons dans le temps, nous vivons à travers nos enfants et nos petits-enfants, et par conséquent, si une politique, si être politique, c'est prévoir non pas pour aujourd'hui, mais prévoir ce que sera l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, à ce moment-là, la question est durablement politique. Simplement, on rencontre deux difficultés politiques. C'est ce qui, peut-être, me fera hésiter à parler de social-démocratie. C'est que la politique écologique ne peut être que globale. Or, toute politique est locale. Hélas, c'est comme ça. Il y a peut-être des moyens de le contourner, mais on voit qu'aujourd'hui, avec la nouvelle organisation du monde post-Trumpiste, c'est encore plus difficile. La deuxième chose, c'est que toute démocratie, c'est sa gloire, elle est forcément à court terme. Et l'écologie pose des problèmes à long terme. Elle pose des problèmes à la fois à long terme et des problèmes globaux. Et c'est ça la grande difficulté politique. Alors, c'est aussi la raison pour laquelle il est aussi difficile de mobiliser, disons, les classes populaires derrière les thèmes écologiques. Parce que forcément, elles en subissent, les politiques écologiques, elles en subiraient à court terme les conséquences, sans pouvoir avoir, à moyen terme, les avantages. Et je trouve, je pense, que tous les mots d'ordre autour du protégeons le vivant, vive la planète, etc., sont contre-productifs dans la mobilisation des classes populaires.
Là, il faut nous expliquer pourquoi.
Alors, je soutiens qu'il n'y a pas d'autre solution qu'une politique, disons, que j'appelle humaniste, aux crises écologiques. Il n'y a pas d'autre solution parce que toutes les autres solutions reviendraient à défendre le vivant comme tel. Bon. Qu'on appelle le biocentrisme. Or, une politique humaniste, elle a pour premier objectif de donner plus à ceux qui ont moins. Et par conséquent, de mettre au centre la notion d'injustice. Si vous dites que les crises écologiques créent des injustices, des injustices entre êtres humains, vous avez peut-être déjà un peu plus de chances d'être entendu que si vous dites que ça fait diminuer le nombre d'ours blancs. Bon. Deuxièmement, nous sommes très attachés en France à la justice intergénérationnelle. Ça se voit en particulier dans l'idée des retraites par répartition. Tout le monde pense qu'il est mieux, qu'il est plus juste que les actifs financent les retraites des retraités. La justice intergénérationnelle, sa contrepartie devrait être que nous nous soucions de nos enfants et de nos petits-enfants et du mode de vie qu'il sera. Si on insistait un peu plus sur ce que c'est que la justice intergénérationnelle plutôt que sur le sort, par ailleurs, fatal des ours blancs, je pense que nous aurions plus de chances d'être entendus par ceux qui sont sensibles au thème de la justice.
Parler des hommes plutôt que des ours blancs.
Par exemple.
Natacha.
Pour prolonger cette question, la fin de votre livre, la conclusion, va sur cette question de savoir pourquoi ce terme « les vivants » a surgi dans le débat politique. Et vous expliquez, vous émettez cette hypothèse qui me semble parfaitement juste, que cela vient du remplacement, en fait, de la logique marxiste de l'exploitation par l'obsession de ce couple binaire de dominant et dominé qui s'est imposé dans tous les débats politiques, qui est peut-être parti, et c'est vrai que je pense que c'est qui est parti du travail de Pierre Bourdieu et de la question du féminisme, et qui a diffusé dans l'ensemble du système politique. Expliquez-nous pourquoi vous pensez que c'est dommageable et que ça empêche la véritable émancipation, Francis, et donc une politique humaniste.
Francis Wolff.
Pourquoi la nature est-elle passée à gauche après deux siècles à droite? C'est la question que je me suis posée. J'ai l'âge d'avoir pensé que la nature était à droite et je m'aperçois un beau jour en me réveillant qu'elle est à gauche. Bon, alors nous avions... Alors, je suis désolé, j'ai l'âge que j'ai. Nous avons eu une jeunesse qui était progressiste et je me réveille vieux sans avoir beaucoup changé d'idée, mais il ne faut surtout pas être progressiste. Je pensais que... l'homme, l'être humain incarné par exemple, le prolétariat était à l'avant-garde de l'émancipation générale de l'humanité grâce au progrès des forces productives et que, par conséquent, les lendemains allaient forcément chanter. C'était la théorie de l'exploitation. Elle était plus ou moins marxiste, selon... mais c'était ce qu'il y avait de dominant dans la pensée...
De l'homme par l'homme.
Voilà. C'était l'exploitation de l'homme par l'homme, des classes les unes par les autres. Alors tout cela fait long feu pour des raisons sur lesquelles tout le monde a conscience, évidemment. Écroulement du socialisme réel, écroulement de l'idéologie marxiste comme idéologie inévitable, et peut-être aussi le fait que la plupart des sociétés occidentales sont devenues beaucoup moins lisibles sur le plan de la structure sociale. Classe populaire, classe moyenne, on ne sait plus trop ce que c'est, on ne sait plus trop quoi ce que ça désigne. La conséquence de ça est qu'il fallait quand même, il faut continuer à mobiliser contre les injustices. Mais on va garder la structure binaire de l'opposition classique exploitant-exploité. Ça n'est plus une domination de classe, une exploitation d'une classe par une autre. C'est une domination, mais la domination, elle se répand dans toutes les couches de la société. Ça, c'est l'aspect Bourdieu. Elle a différents champs, comme disait Bourdieu. Et le champ par excellence, en effet, vous l'avez signalé, Natacha, c'est... la domination masculine. Pourquoi ? Parce qu'elle est universelle, parce que on ne connaît pas d'exception de société dans lesquelles il n'y a pas cette domination masculine, et par conséquent, c'est celle qui va agréger toutes les luttes de domination, donc féminisme, afroféminisme, écoféminisme, bon, toutes les formes de domination peuvent s'agréger à cette lutte centrale, puisque c'est aussi celle qui est en train de mener la révolution anthropologique la plus importante peut-être de l'histoire de l'humanité, si on arrive enfin à l'égalitarisme ou à l'égalité complète homme-femme, ce serait quelque chose d'absolument inouï dans l'histoire de l'humanité. Bref, il fallait voir dans toute injustice une domination, il fallait voir dans toute domination quelque chose comme un rapport binaire dominant-dominé. À ce moment-là, il y avait beaucoup de candidats à être dominés. Et en particulier, puisqu'on parle de thèmes écologiques, la nature, qui a longtemps été dominante puisqu'il fallait la transformer grâce à la technique humaine, il fallait créer de plus en plus d'outils artificiels, jusqu'à des vaccins, jusqu'à des médicaments, jusqu'à des intelligences artificielles pour mieux dominer la nature. Ben, la nature, qui était au fond l'adversaire, que nous devions dominer grâce à nos techniques, eh bien, elle est devenue maintenant du côté des victimes. Et elle l'est devenue, elle est passe du côté des victimes, d'autant plus grâce à cette notion de vivant. Nous avons le dominant qui est l'homme, avec un grand H, ou avec un petit H, et le vivant est la victime dont on a besoin, n'est-ce pas, pour dire que... Alors, il y a aussi une certaine interprétation de la notion, plus ou moins enfin, scientifique d'anthropocène, qui fait de l'homme en général le responsable.
Est-ce que vous diriez, et c'est la conclusion de notre discussion, quand nous victimisons, nous humains, nous sommes en train de nous condamner ?
Je dirais plutôt que si nous nous oublions que ce qu'il faut sauver, c'est l'humanité, et s'il faut sauver à tout prix l'humanité, c'est pour le sort de nos enfants, eh bien, c'est en effet nous qui nous condamnons.
Merci beaucoup Francis Wolff. La vie a-t-elle une valeur ? C'est aux éditions Philosophie Magazine et ça se lit en effet comme un John le Carré. Merci Gilles et merci Natacha. Merci à l'équipe du Grand Face à Face. Mathilde Clatt à la préparation de l'émission. Marie Mérier évidemment à sa réalisation. Et aujourd'hui c'est David Diboué-Black à la technique d'une émission à laquelle vous pouvez vous abonner en podcast sur l'appli Radio France.